Spectaculaire commence, émission numéro 265 en ce mercredi 1er juin 2022. Christophe Roland au micro, Fanny Robin est notre invitée aujourd'hui, commissaire de l'exposition Oniric Landscapes qui a commencé en février dernier le 9 et qui se termine le samedi 16 juillet prochain. Quatre artistes, Charlotte Denamur, Vanessa Fanuel, Frédéric Codja ainsi que Christian L'Hôpital pour parler de Fin du Moisson, les artistes de cette exposition. Mais Fanny Robin est également directrice artistique à la Fondation Bulukian. C'est là que cette exposition a lieu. Magnifique endroit sur la place Bellecour, au 10 certes, mais ce qui est plus intéressant à indiquer, c'est au démarrage, à l'entrée de la rue Victor Hugo. C'est un bel endroit. Et donc, première partie d'émission peut-être, eh bien, un portrait de notre invité certes, mais aussi de cette Fondation Bulukian qui gagne à être connue. Je me dis que je connais cette fondation depuis quelques temps, mais je redoute que les Lyonnais ne s'y rendent pas assez, alors que ça vaut vraiment, vraiment tout à fait le coup. Donc, nous allons en parler pendant cette émission. On va faire cela comme tous les mercredis. Alors, sans chronique presque littéraire, l'égoïsme se partage de Francis. Coucou Francis, il n'est pas présent aujourd'hui, il sera là la semaine prochaine pour sa chronique numéro 15. Commençons-nous en musique. Merci Fanny pour une belle suggestion musicale, belle programmation que j'ai déjà mise en entier sur le blog. Écoutons Gregory Porter avec le titre Dry Bones. Et puis nous enchaînerons jusqu'à 15h comme tous les mercredis. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si c'est sur internet. Si c'est sur la bande FM à Lyon, c'est plus simple, c'est le 102.2 et c'est tout.
I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move fill my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Can't dance with the devil till he's off your back. 'Cause he's dry, dry bones. Gonna rise up, gonna rise up. 'Cause he's dry, dry bones. Gonna rise up, gonna rise up. 'Cause he's dry, dry bones. Gonna rise up, gonna rise up. 'Cause he's dry, dry bones. Gonna rise up, 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 gonna rise up. Take my hand, let it set you free. Keep on working.
vraiment, merci Fanny. Quel
merci
démarrage d'émission formidable.
Merci à vous pour cette invitation.
Bonjour Fanny Robin, directrice artistique à la Fondation Bulucan, ainsi que commissaire de l'exposition Oniric Landscapes, paysage... Je ne sais pas si la loi Toubon n'aurait pas pu se signaler et dire tout de même, faudrait traduire un peu cela. Paysage, paysage rêvé, paysage de rêve, paysage onirique, exposition qui se tient à la Fondation Bulucan. J'ai dit n'importe quoi, j'ai annoncé le 10.
Vous
non, non, c'est le 26.
Le 10,
c'est le 26 de la place Bellecour. Ouais. Et c'est donc, quand on parle de Lyon, est-ce qu'on peut vraiment situer la place Bellecour? Bon, voilà, c'est le cœur de Lyon. Il y a une station métro, hein, si vous voulez la chercher un peu. L'exposition a commencé en février dernier, le 9 se termine. Et encore beaucoup de temps, un mois et demi jusqu'au samedi 16 juillet. L'entrée est libre. Ce que vous pouvez faire, c'est vous y rendre entre le mardi et le vendredi, surtout l'après-midi, de 14h à 18h. Les samedis, 10h midi, 14h 18h. Des visites sont proposées, maintes choses, des ateliers. Les artistes eux-mêmes seront présents les 11, 15 et 18 juin. Ce qu'on va faire peut-être, Fanny, c'est avant de parler plus précisément de cette exposition, il faudrait quand même parler du lieu où elle se tient. Je n'ai pas encore peut-être nommé la Fondation Bulucan. Peut-être qu'en retraçant votre parcours, vous allez être amené, je crois, assez vite à évoquer cette belle fondation. On pourra en donner quelques dates, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Et donc vous dire, Fanny, comment vous vous présentez un peu et puis comment présenter cette belle, imposante, riche, assez immense, grandiose, enfin,
oh là là,
dense,
quelle pression.
Fondation Bulucan.
Oui, c'est un très bel endroit. Alors, moi, pour me présenter rapidement, c'est pas un exercice très facile, mais je m'appelle Fanny Robin, je viens d'avoir 36 ans. Je suis donc, oui, directrice artistique de cette fondation, de la Fondation Bulucan, dans laquelle je travaille depuis 14 ans déjà. Donc, j'ai deux bébés, enfin deux enfants à la maison, mais on peut dire que la fondation, c'est aussi un de mes bébés, parce que j'y suis depuis de nombreuses années. Voilà. Je l'ai vu bien évoluer, donc c'est un très bel endroit. Et donc j'assure la direction artistique de cette fondation, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la programmation, des expositions, du développement des expos, des manifestations, du contact avec les artistes, voilà. Et ça avec une super équipe de trois personnes, puisqu'on est quatre à la fondation, mais voilà, une équipe réduite mais très très soudé.
Nommons-les.
On va les nommer. Allez. Évidemment, alors vous aviez parlé de l'accueil, de toutes les activités, des ateliers qui se déroulent à la fondation pour les familles, pour les visites de groupe. Donc vous serez accueillis par Pauline, la merveilleuse Pauline, Alicia aussi qui nous a rejoint, et puis pour toute la partie administrative mais aussi bien plus que ça, Claire, voilà, qui donc une équipe de quatre jeunes femmes. Et puis au niveau de la direction, on est chapeauté par un conseil d'administration. Voilà, on a ce fonctionnement de fondation qui a un statut de fondation reconnue d'utilité publique, mais aussi abritante. Voilà, donc c'est un statut un petit peu particulier. C'est intéressant de le connaître et de connaître ce lieu qui, en effet, est en plein centre de Lyon, place Bellecour, et qui est accessible gratuitement pour tous les visiteurs.
On va en parler davantage, hein, parce qu'il y a quand même des différentes choses à dire sur ce Napoléon Bulucan, sa naissance en
1905. Alors on ne sait pas exactement, mais... parce qu'il aurait trafiqué à un moment ses papiers.
Quel prénom Napoléon. Mais moi j'y tiens, c'est un peu le cahier des charges de l'émission qui aura 10 ans l'année prochaine en 2023. Un petit portrait de cette jeune Fanny Robin qui sort de l'un, et comment est-ce que vous arrivez, en gros, c'est cette question que j'aurais peut-être dû vous dire la chose plus clairement, c'est comment êtes-vous arrivé en 2008, comment êtes-vous entré à la Fondation Bulucan, quels sont les éléments de votre parcours, le lycée et la suite, ou même l'école, est-ce qu'il s'est produit quelque chose à l'école qui a fait que...
Oui, bien sûr, alors c'est un parcours, hein, c'est beaucoup de rencontres. Je pense que si j'en suis là maintenant, c'est parce que je suis riche aussi de toutes ces rencontres qui ont jalonné mon parcours. Donc en effet, je suis née dans l'Ain, je continue de vivre
dans
l'Ain. On en
reparlera, de Revona tout à l'heure.
Sans doute en reparler, donc je passe beaucoup, beaucoup trop de temps dans le train, mais bon, ça fait partie un peu du truc, quoi. Je suis arrivée, donc j'ai fait des études littéraires, après histoire de l'art à partir du lycée, ça m'a toujours accompagnée suite à, je crois, une visite d'un lieu incroyable que j'aime toujours autant, qui s'appelle la Fondation Mag, quand je suis sortie de troisième.
Ah, c'est dans le sud, ça.
Ah, c'est dans le sud. Et puis, grosse découverte, hein, j'y connaissais pas grand chose. Et puis là, gros coup de cœur, grosse émotion de découvrir ce lieu, ces artistes, tout cet univers, en fait, qui m'était assez étranger.
En tant que collégienne, donc vous le découvrez.
Ouais, c'est ça, exactement. En tant que collégienne, après, je décide.
Il n'y avait pas eu à l'école, peut-être même élémentaire, un peu en production artistique, art plastique. Si. Est-ce que vous étiez déjà.
Ouais, tout à fait. Des profs, quand même, avec cette sensibilité-là qui nous faisait découvrir déjà des artistes et nous baignait un petit peu dans cet univers et puis des gens passionnés. Donc oui, je pense que ça a été un concours de circonstances, mais vraiment la découverte de ce lieu qui est à la fois... Qui est très complet parce que c'est à la fois la nature, l'architecture, les artistes, enfin tout ça dans un même lieu réuni, c'était assez magique.
Il y a quelques jours de Pentecôte qui arrive après l'ascension. Si des gens veulent se rendre à cette fondation, alors déjà l'orthographe est assez particulière
pour
cette
fondation MAGH, ouais, la famille MAGH, voilà.
Il y a peut-être un T
à la fin.
Et c'est sur quelle commune c'est,
On est sur Saint-Paul-de-Vence.
Oui, c'est plus au Cantilupe, c'est ça.
Saint-Paul-de-Vence, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc ça me fait bifurquer. Alors les études littéraires, ça c'était prévu, hein. Je suis pas une grande scientifique, donc c'était prévu, mais je choisis l'option histoire de l'art à l'entrée du lycée. Et puis là, voilà, grosse passion, ça m'accompagne. Je fais du théâtre aussi dans ce lycée à Bourg-en-Bresse. Je continue avec la fac d'histoire de l'art, enfin c'était la fac de droit à Bourg. Je poursuis avec des études d'histoire de l'art et puis j'arrive à Lyon et je fais une école spécialisée de marché de l'art et médiation culturelle. Voilà, un an. Et j'ai la chance de faire des stages, faire plusieurs stages et de faire un stage à la Fondation Bulukian. Voilà. Donc c'était en 2008, comme vous l'avez dit. Et puis.
Donc vous y entrez ?
J'y entre en tant que stagiaire en médiation culturelle. Je découvre, j'accompagne le public. Alors à l'époque, la Fondation n'était pas du tout ce qu'elle est devenue, hein, en termes déjà de surface.
Oui, des travaux ont eu lieu, c'est ça, je crois.
Voilà, on a fait de gros travaux d'agrandissement aussi depuis 2019. Donc on avait un espace beaucoup plus réduit de 60 mètres carrés à peu près, ce qui était déjà pas négligeable.
Hein, mais l'espace Boissac était déjà...
Non, là justement, c'était vraiment une petite galerie, place Bellecour, avec une programmation qui n'était pas forcément orientée très art contemporain. Donc j'arrive et puis je reste plusieurs mois et au bout de 6 mois, la personne que je peux nommer, hein, Élise Chanet, qui est une grande amie maintenant, qui travaille à l'École des Beaux-Arts de Lyon, part justement pour l'École des Beaux-Arts de Lyon, et vu que je suis stagiaire à ce moment-là, et ben Jean-Pierre Clavran, on a parlé de rencontre tout à l'heure, le président de la Fondation Bulukian, me propose d'intégrer les bureaux, et puis de devenir, pas tout de suite évidemment directrice artistique, mais de réfléchir à la programmation, de m'y associer de plus en plus, et voilà, ça fait 14 ans que j'y suis.
Vous en avez dit beaucoup, peut-être quelques mots sur cette Fondation Bulukian et puis ensuite on entrera donc plus précisément dans l'espace lui-même avec cette exposition Oniric Landscapes. Il y a une autre exposition qui a lieu aussi dans le Bululab.
Oui, le Bululab.
Il y a tellement de choses qu'il faut évoquer.
Il y a énormément de choses. Il y a la belle exposition de Gaëlle Lotte aussi dans ce nouvel espace. Alors un espace pas vraiment nouveau, mais en tout cas qu'on dédie maintenant pour des programmations comme ça qu'on appelle Focus et qui nous tient vraiment à cœur puisque dans cet espace on souhaite montrer aussi des artistes coup de cœur, des artistes peut-être un peu plus émergents, mais des propositions peut-être aussi autour de livres d'artistes, autour de rendez-vous comme ça, de rencontres, voilà. Et là en ce moment, enfin ça dure encore 2 semaines, la belle exposition de Gaëlle Lotte qu'il faut absolument découvrir.
C'est effectivement sur un temps plus court, du 13 avril jusqu'au 11 juin, donc ouais. C'est pas du 9 février au 16 juillet, c'est un peu plus réduit, d'ailleurs l'espace est plus réduit aussi. Je crois qu'on est presque prêt à évoquer, donc peut-être plus précisément, il y a certainement davantage de choses que vous pouvez indiquer concernant Gaëlle Lotte, et puis surtout concernant Vanessa Fanuel, Charlotte de Namur, Christian L'Hôpital, ainsi que Frédéric Coggia, mais peut-être deux, trois mots. Je crois que c'est à la fois ce que rappelle Jean-Pierre Clavran sur une des vidéos de teasing, et puis puis c'est aussi indiqué sur le site, ces trois missions de cette fondation Bulukian. Donc peut-être, non, la biographie, elle est trop... C'est un roman, la vie de Napoléon Bulukian.
Bah, voilà,
la date de naissance déjà n'est pas très claire, vous indiquez,
c'est
vous
ça.
Dites.
Vous l'avez bien résumé, c'est un roman.
Génocide arménien, c'est absolument terrible.
Enfin, c'est terrible, Napoléon Bulukian doit fuir son pays d'origine pendant
Natif
la période...
Natif d'Arménie, ville de Malatia.
Oui, exactement, et pendant le génocide. Et puis, un parcours complètement incroyable. Après avoir été vendu comme esclave, il va arriver en France dans les années 20. Il va être petit à petit naturalisé, mais ça, je vais très vite. Il faut se plonger dans cette histoire qui est à la fois très difficile, comme beaucoup d'histoires de tous ces rescapés du génocide. Et puis petit à petit, quand même, Napoléon Bulukian, par sa force de travail, par ses relations, par sa vision aussi du monde et sa vision d'entrepreneur, va arriver à Lyon, travailler dans le bâtiment et devenir entrepreneur. Il va être une véritable personnalité et il va décédé sans héritier.
Alors qu'il y avait une belle histoire d'amour avec Léa.
Et ouais, exactement.
Un peu de romanesque, de la romance aussi.
Léa est une personnalité, évidemment.
Décédée 10 ans avant lui, quand même.
Ouais, très importante. Et il va souhaiter que tout soit légué à cette fondation qui portera son nom et qui a trois missions. Donc, on a une mission santé et recherche. Donc là, c'est vraiment autour de la recherche médicale, puisque Napoléon Bulukian était, sa femme Léa, dont on vient de parler, était décédée d'un cancer 10 ans avant lui. On a une mission...
Le premier président, d'ailleurs, on se le rappelait tout à l'heure, Pierre Marion, dans les années 70, il faudrait que je retrouve cela sur le site, était un chirurgien, non, enfin du moins c'est...
Il a travaillé sur le cœur artificiel, c'était une grande personnalité aussi.
Et donc il est président après le décès de Napoléon Bulukian.
C'est le premier président de la fondation et ensuite donc...
Les autres missions
À sa mort,
une mission santé, recherche.
Ce sera Jean-Pierre Clavran qui est toujours président actuellement. Donc une mission santé-recherche, une mission œuvre sociale arménienne, puisque on vient de le rappeler, Napoléon Bulukian était d'origine arménienne, donc il y a toute une mission de la fondation qui est autour des projets de solidarité en faveur de l'Arménie. Ça peut être en France, pour des initiatives en France, mais aussi directement sur le terrain là-bas. Et puis une mission culture, puisque Napoléon Bulukian était un grand mécène et grand collectionneur tout au long de sa vie. Il a beaucoup aidé les artistes, il était entouré d'artistes, et du coup il a souhaité dans son testament qu'une partie de ses fonds soit employée pour continuer à aider les artistes.
Tout ce que vous dites peut éventuellement se consulter sur le site. Je suis sur la date de 64, Astraplastique. Napoléon Bulukian prend la tête de la société de bouchons Astraplastique, misant sur l'innovation. Son activité dans l'industrie plastique est dans les années 1980 parmi les plus performantes d'Europe. Oui. Il devait y avoir quand même un sacré talent des affaires, enfin un négociant assez remarquable. Et je recherchais la photo de sa maison avec
ses maison
œuvres.
Qui était à Champagne-en-Mont-d'Or, tout à fait, qui s'appelait la Malmaison.
C'est ça, voilà, et je l'ai sous les yeux.
Voilà, où on peut découvrir encore quelques photos d'archives où on voit Napoléon Bulukian et sa femme entourés de cette collection
belle
incroyable.
Collection de tableaux,
voilà,
une belle photographie. Donc tout ce que vous indiquez peut se retrouver sur le site, dans la partie... Très agréable ce site, et d'ailleurs peut-être à mettre en relation. Ah, une belle couleur blanche, très très épurée. Fondation Bulukian est indiquée, donc il y a bien les onglets dont vous parliez à l'instant. Alors un premier onglet fondation avec présentation, histoire et différentes choses, et ensuite création. Vous avez terminé par cela. Recherche santé, vous avez commencé à évoquer ce premier pôle, et ensuite ce pôle arménien. Ben, je pense que nous sommes prêts. Le pôle création avec donc ce centre d'art et d'exposition. Nous sommes prêts à évoquer l'exposition plus précisément. Entrons par le biais d'une petite pause musicale. Vous avez quand même beaucoup parlé, Fanny. Est-ce que l'on pourrait cheminer Walk to School avec ce titre de Philip Glass? Music by Philip Glass and Paul Leonard Morgan. C'est extrait de la bande originale de la série Tales from the Loop. Pour l'avoir vue, je l'ai trouvée absolument sidérante, cette série. Mais Allons à l'école avec Philippe Glass. Il y a un petit rapport peut-être, non, Philippe Glass et,
Philippe Glass,
François Mardi-Rossian, non?
Oui, c'est... tout à fait. On peut faire un coucou à nos amis de Superspective aussi qui organisent le festival.
Quatrième édition, je crois, cette année.
Oui, exactement. Et puis, du coup, moi, grâce à eux, c'est vrai que j'ai redécouvert Philippe Glass que j'avais comme ça. J'avais rencontré sa musique et c'est via Superspective que j'ai redécouvert ce fabuleux titre, donc on va l'écouter ensemble.
François Mardi-Rossian sera avec nous le mercredi 15 juin. Écoutons Tales from the Loop, c'est le nom de la série Walk to School, et continuons plus précisément sur ces expositions à la Fondation Bulukian au 26,
hein,
de la place Bellecour. Non seulement il faut écouter la bande originale de cette série Tales from the Loop, mais il faut aussi voir la série qui est absolument fabuleuse. Et je crois que, mine de rien, merci Fanny Robin pour cette belle programmation musicale, je crois que nous sommes prêts à entrer au 26 de la place Bellecour, espace Fondation Bulukian, centre d'art. Nous sommes prêts à entrer, alors si on veut, quand on passe les belles grilles, entre donc le CIC d'un côté et juste c'est Artbook, c'est ça, c'est oui. Ta chaîne plus ou moins les livres, mais il y a de beaux livres,
il hein, y a quand de très beaux livres,
il y a de chouettes, de belles découvertes à faire. Donc une fois qu'on entre, avant même de pousser la porte du fond, il y a ce Bululab, peut-être un petit mot, on l'évoquait tout à l'heure, et puis comme l'espace est plus réduit peut-être, et puis Gaël Lotte, ça se termine le 11, nous sommes le premier aujourd'hui, c'est oui. Le samedi de la semaine prochaine, c'est ça?
Tout à fait, donc tout de suite dans cette fameuse cour d'honneur hein, qui peut paraître impressionnante, mais surtout franchissez-la, c'est important, vous serez bien accueillis à la Fondation Bulukian. Sur votre droite, maintenant vous avez cet espace qu'on appelle Bululab,
une salle
où il va se passer encore plein de choses et où l'artiste Gaël Lotte nous fait en ce moment une belle proposition d'exposition immersive qui mêle à la fois la céramique, le dessin, l'installation murale, voilà, et le son aussi, c'est une très belle artiste à découvrir dans ce format là. En tout cas, elle a su vraiment imprégner les espaces de tout son univers et
beaucoup de couleurs.
Voilà. Énormément de couleurs, beaucoup de poésie aussi dans ce travail. Voilà, c'est vraiment une artiste qui selon les projets, imprègne les lieux, fait à chaque fois des propositions très très différentes, mais qui arrivent à imprégner les espaces comme ça. Enfin voilà, c'est très beau. Et c'est vrai que c'est ce format de Bulu Lab est intéressant puisqu'on est dans des temps, on va dire, un peu plus court que la programmation du centre d'art, mais où il se passe aussi énormément de choses. Ça peut, voilà, on organise des rencontres, des projets autour de l'édition, et à partir de la rentrée, ce sera encore plus dynamique.
Et est-elle sur place, cette jeune, pas même 30 ans, artiste qui est native de Bordeaux, ça ouais. arrive, mais elle vit et travaille à Lyon à présent.
Elle vit et travaille à Lyon, mais elle a énormément de projets, ouais. donc là, elle aura une exposition bientôt aussi à Bruxelles. Voilà, elle bouge beaucoup en fait, hein, selon les projets. Mais oui, elle est à Lyon.
Et donc, si on entre bien dans le centre d'art, on peut donc voir toutes ces œuvres. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un parcours ou même commencer par indiquer que si vous souhaitez, auditeur, auditrice, en savoir un peu plus quand vous verrez ces œuvres, ben, peut-être pourriez-vous vous rendre à la Fondation Bulukian ou bien le samedi 11 juin, ou bien le mercredi 15, ou encore le samedi 18, entre 15 et 17 heures. Mmh. Puisque les artistes seront là, alors ils seront là trois sur les quatre, et ils ne seront pas là en même temps tous les trois.
Non. Ouais.
Je n'ai plus l'ordre. Le samedi 11, hein, qui
alors,
est le premier.
Alors ça, moi, je ne l'ai plus en tête non plus.
Je vais le retrouver.
Je sais que, en tout cas, vous pourrez rencontrer et Frédéric Kodja et l'artiste Vanessa Fanuel qui vient mercredi, et ensuite l'artiste Christian L'Hôpital. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est être un espace ouvert et si possible vraiment créer ces connexions, ces rencontres entre les artistes, le public. Voilà, donc au-delà des expositions qui durent un certain temps, on travaille vraiment à créer ces connexions-là, à permettre ces rencontres. Et c'est vrai qu'on a la chance avec Frédéric Kodja et Christian L'Hôpital d'avoir deux artistes formidables qui vivent à Lyon. Donc on en a beaucoup profité. En fait, on les a fait venir très très souvent.
Peut-être qu'il serait temps enfin de parler vraiment plus précisément de ces œuvres, même si à la radio c'est certainement un exercice un peu délicat. Le nom de l'exposition, Oniric Landscapes, dit tout de même bien la chose, paysages oniriques, rêvés, paysages de rêve. Fanny Robin, vous êtes directrice artistique à la Fondation Bulukian, également commissaire de cette exposition. Alors peut-être comment en parler, une forme un peu de chronologie ou un parcours à l'intérieur. On peut renvoyer au bel audio guide. Merci Alicia, qui est très très précis, une vingtaine de minutes. Il y a aussi une vidéo, une dizaine de minutes, accessible également sur le site, avec les artistes eux-mêmes qui présentent leurs œuvres. Peut-être une forme de la genèse de cette exposition.
Oui, bien sûr. Alors c'est une exposition qui fait la part belle, on va dire, à la peinture, au dessin, à la couleur. Peut-être que c'était important après cette période aussi un peu troublée de fermetures successives du centre d'art, où ça a été quand même très compliqué de se projeter sur des programmations. Et puis les expositions précédentes étaient formidables, mais beaucoup autour de la sculpture. Donc peut-être aussi cette envie et ce besoin de revenir voilà, à la peinture, au trait, au dessin. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est programmé. Sont des artistes, donc quatre artistes avec lesquels j'avais déjà plus ou moins collaboré, donc je connais bien l'univers, dont j'aime beaucoup le travail évidemment, et du coup les réunir pour cette exposition, c'était à la fois un défi, mais un véritable plaisir aussi d'imaginer de se faire rencontrer leur nouvelle production, leurs travaux, et d'imaginer ce parcours autour des paysages, parce que chacun à sa manière va travailler sur des paysages, mais chacun à leur façon aussi va vraiment avoir à la fois un travail sur le paysage extérieur, le passage entre l'intérieur et l'extérieur, après plutôt la nature qui sera présente dans les œuvres de Vanessa Fanuel par exemple, dans le travail aussi de Frédéric Kodja. Avec Christian L'Hôpital, on va basculer plutôt sur les paysages rêvés, mentaux, enfin tout ce qui va vraiment toucher plus à au rêve, à l'inconscient. Et puis on poursuit, on finit aussi avec ce beau travail de Charlotte de Namur, où là on est dans quelque chose de très abstrait, de très sensitif, dans cet espace Boissac, où elle nous fait des propositions de peinture comme ça sur textile, qui vont vraiment fonctionner aussi avec la lumière, avec l'environnement extérieur. Donc voilà, c'était un peu cette idée de cheminement, en tout cas quand j'ai imaginé cette exposition. Et puis là encore, de créer si possible toujours des glissements entre ces artistes, leur boulot, et puis aussi de présenter des productions récentes. Voilà, parce que pendant le confinement, les artistes ont beaucoup produit. Donc c'était vraiment de jouer à la fois sur différents formats, différentes techniques, mais aussi de montrer des productions récentes qui n'avaient pas été présentées jusqu'à présent pour la plupart de ces artistes.
Différents formats, oui, effectivement, c'est bien le cas, avec y compris, je pense, à ces deux œuvres qui sont des créations in situ, celle de Christian L'Hôpital, Trajectoire du rêve. J'étais en train de rechercher, je recherchais le titre. Oui. Et puis, pour ce qui est de Charlotte de Namur aussi, c'est ces immenses pans de tissu. Donc, à la fois, la trajectoire du rêve, elle occupe trois pans de mur, c'est ça, je crois, la trajectoire du rêve.
Oui, on est dans une salle qui est... oui, c'est ça, on est sur trois pans de mur. Alors, c'est une salle qui est un petit peu... qui est très en termes d'espace, structuré un petit peu bizarrement
sur un côté, au fond
sur un côté, mais avec de la lumière naturelle, enfin voilà, qui me fait beaucoup penser, moi, ou à une petite chapelle ou une grotte. Enfin, il y a ce côté assez confidentiel, et je trouve que Christian, vraiment, dans sa proposition de dessin mural, dessin éphémère comme ça, a su nous englober, en tout cas de son travail, et on a cette impression aussi de dessin qui va continuer à se déployer à l'infini. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau travail, évidemment, qu'il faut découvrir, puisque, comme son nom l'indique, c'est un dessin mural éphémère, donc qui sera ensuite recouvert. Je le dis parce que le public à chaque fois nous dit, mais c'est pas possible, vous allez recouvrir le dessin de Christian L'Hôpital. Mais oui, voilà, donc il faut en profiter pendant encore que l'ouverture de l'exposition.
Le recouvrir, l'effacer peut-être,
c'est l'effacer, ça. L'effacer, c'est... Non. Voilà.
Voyez bien, auditeurs, auditrices, la
c'est
vidéo...
C'est une expérience, en tout cas.
La vidéo montre, elle a été... il me semble que des moments sont réalisés pendant la réalisation de cette œuvre. Mais encore mieux que cela, auditeurs, auditrices, allez-y, l'entrée est gratuite. Il n'y a pas à voir la vidéo qui dure 10 minutes, qui est formidable. Les
artistes, c'est un complément. C'est un complément formidable. L'audio guide, est un complément formidable aussi. Mais rien ne vaut l'expérience directement sur le lieu et la rencontre, la confrontation avec les œuvres. Ça, c'est sûr.
Peut-être un dernier mot avant de faire une autre courte pause musicale pour évoquer encore un autre projet qui vous serait à cœur. Peut-être un dernier mot sur y aurait-il une impression globale qui peut se dégager de toutes ces œuvres, ou au contraire, ou est-ce que c'est plutôt chaque univers, chaque œuvre à chaque, parce qu'en plus, même pour les artistes, vous l'avez un peu dit, il y a des époques différentes ou des réalisations différentes. Je pense à Christian L'Hôpital, oui, qui a des œuvres de 1987,
absolument,
2001, 2022. Absolument. Et puis je pense aussi à Frédéric Kodja, quand on est sur l'entrée, quand on prend cette allée de droite, il y a des œuvres qui sont, j'ai pas tout à fait regardé les dimensions, aussi 18 cm je crois sur une vingtaine, c'est un peu petit sur la gauche. À droite, c'est un peu plus allongé. Alors au fond,
c'est tout l'intérêt du paysage.
Au fond de la salle, le paysage, c'est bien plus important.
Voilà, c'est tout l'intérêt aussi de montrer à la fois des étoiles récentes, inédites, mais aussi plus historiques. C'est montrer la diversité d'un paysage et voir que tout ça est toujours mouvant et qu'il y a beaucoup de porosité entre les œuvres, les techniques, les périodes. Pareil pour le grand polyptyque de Vanessa Fanuel, hein, qui est sublime,
qui est
La Sauvage, dès que vous rentrez dans cette salle. Donc il y a ce jeu aussi de panneaux qui pourraient, et d'ailleurs l'artiste le dit, quand elle l'a conçu, quand elle l'a imaginé, c'était dans cet objectif-là, en fait, c'est de pouvoir les interchanger pour jouer sur justement ce paysage qui est toujours changeant. Donc là, l'intérêt aussi de cette exposition, c'est de montrer, voilà, des corpus d'œuvres plus anciennes, mais qui font aussi écho à l'actualité aujourd'hui, de techniques très différentes, mais finalement, c'est aussi ça l'intérêt de la nature, du paysage et de nos émotions, parce que ça fait beaucoup appel aux émotions. Rien n'est jamais très linéaire.
Beaucoup de nature, oui, pour Vanessa Fanuel, et artiste franco-italienne. C'est ça qui...
Vit à Paris, oui.
Dans les vidéos, elle s'exprime très bien en français, pas de problème. Des œuvres très... beaucoup de nature, avec donc cette forêt qui apparaît dans ce polyptyque, avec... on distingue même, je crois que c'est le terme qu'elle emploie, des fantômes.
Des silhouettes.
Des silhouettes, voilà, j'en vois un. Et puis, il y a aussi une autre œuvre qui précède ce polyptyque, peut-être qu'on pourrait terminer dessus, qui est tout de même encore de la nature, une forêt d'opale. La selva, après la forêt, ce n'est plus une toile, ça c'est plutôt, comment qualifier,
une installation.
Une installation
qu'elle a au sol, qu'elle a réalisée à l'Assaut de la Menuiserie, qui est un centre d'art situé à Saint-Étienne, où elle a pu être en résidence là-bas et vraiment travailler aussi sur de nouvelles productions, et qui est une pièce très belle qui a inclus à la fois la peinture, mais aussi des sculptures, parce que Vanessa Fanuel a un travail autour du plâtre, de petites sculptures, mais aussi des branchages naturels, enfin
un
mélange de végétaux, voilà, il y a tout un travail autour des masques qui vont aussi après renvoyer au pastel de Frédéric Coggia, où on va pouvoir retrouver des paysages au grand masque, etc. Donc voilà, c'est une très belle pièce, et là encore, l'idée c'est vraiment de tourner autour, de s'approcher, de voir un petit peu tous les détails, puisque là encore c'est changeant, et c'est vraiment une vision en 360 d'un paysage.
Et alors un paysage, je crois, littéraire. J'ai cru comprendre qu'il y a un petit peu de Dante. Ce sont les premiers vers, c'est ça, de sa Divine
c'est
Comédie.
C'est ce qui l'a inspiré,
oui. Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Vous avez un bel accent.
Je massacre totalement italien. Auditeur, auditrice et italianophone, n'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles. Mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Je me retrouvais dans une forêt obscure. Dans la voie droite était cachée, je crois, où c'est problématique. Donc c'est cette œuvre. Oui, d'ailleurs, il y a un Dante qui apparaît dans la vidéo. On ne le voit pas pendant l'exposition, non. Mais ne pas voir Dante, c'est pas problématique. J'arrête pas de dire, peut-être qu'on pourrait terminer. En fait, l'espace Boissac, je ne sais pas si on a été très clair, auditeur, auditrice, ce n'est pas l'espace principal dont l'entrée se fait au 26, il faut traverser un
voilà,
jardin,
c'est très agréable. C'est-à-dire que la fondation, vous rentrez par le 26 Place Bellecour, mais après vous avez une déambulation qui se fait à travers trois espaces différents. L'espace Bellecour, qui est celui dont on vient de parler, vous traversez un jardin, donc beaucoup de
très
Lyonnais...
Très
agréable,
très calme.
Beaucoup de Lyonnais connaissent pas forcément ce jardin, mais ceux qui le découvrent reviennent aussi pour ça. Une vraie petite bulle en plein centre de Lyon, comme ça, où vous pourrez là aussi découvrir deux œuvres. Une monumentale de l'artiste Jérémy Gobet, qui avait été réalisée en 2019, et une sculpture de l'artiste Lionel Sabaté, suite à une expo réalisé en 2020. Et puis après, vous terminez la visite, vous poursuivez la visite dans un autre espace qui est très différent, un espace avec des pierres, avec beaucoup de volume, et pour des propositions qui vont là encore être plutôt autour de la sculpture, de l'installation, voilà. Donc c'est vraiment un lieu qui est conçu dans un ensemble, mais qui à chaque fois vous fait progresser d'un univers à un autre. Voilà, c'est assez étonnant.
Et là, il faut s'y rendre dans cet espace, puisque c'est là qu'on trouve toutes les œuvres de Charlotte de Namur, et on en trouve encore une très intéressante de Christian L'Hôpital, 2001, une œuvre qui a tout de même 20 ans. Ce n'est pas le paysage gelé, non, c'est recouvrement, c'est ça? Enfin,
oui.
Moi, c'est le œuvre très étrange avec j'ai questionné Alicia qui m'a un peu renseignée. Il y a une sorte de un vernis qui a été appliqué, et on peut distinguer des choses qui apparaissent encore de dessous, et puis dessus c'est des formes marbrées un peu.
Exactement.
Auditeur, auditrice, c'est terrible de parler.
Il faut voir. C'est une très très belle œuvre de 2001 de Christian L'Hôpital, très grand format, et puis vraiment qui au niveau de la technique, du rendu, de la matière, voilà, et doit se vivre. C'est ça, c'est vrai que c'est compliqué de parler. On peut parler d'effets marbrés, de mouvements, etc. Mais c'est une fois en face qu'on ressent tout ça.
Là, vraiment, nous allons nous arrêter. Non pas pour la chronique de Francis, qui de toute façon ne commencerait pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Mais auditeurs, auditrices, je redis ce que j'ai annoncé en début d'émission. Francis ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc la chronique numéro 15. L'égoïsme se partage, chronique presque littéraire, aura lieu plutôt la semaine prochaine. Là, il est temps d'écouter, peut-être, c'est une invitation que vous nous faites. J'ai l'impression, là, Fanny Robin, je vois ce titre de Paolo Conte.
Ah bah oui, là, vous faites...
Via con me.
Vous avez parlé italien tout impératif. À l'heure.
Viens avec
vous
moi,
faites les transitions.
Vous nous amenez, je crois que vous allez nous emmener du côté... On va retourner dans l'un. On l'avait dit, hein, auditeur Driss, on avait été très, très clair, très honnête en début d'émission. On avait dit qu'on parlerait beaucoup de l'un et qu'on y reviendrait.
J'en ai pas parlé pour l'instant.
Oh, un pas peu le lycée, peu, le lycée à Bourg. Ouais, et puis différentes choses, donc on va parler...
Bon, là, on va en Italie, alors.
Oui, très bien, partons en Italie, et puis ensuite, nous irons avec vous, on prend un train pour s'y rendre, c'est ça. Campagne première, deuxième édition. Vous êtes également commissaire de cette exposition. Les dates, je ne les ai pas encore...
C'est le premier week-end de juillet.
Bon, ben, les 2-3 juillet prochains,
exactement.
Donc encore un mois. On va en parler, mais tout d'abord, écoutons donc cette belle invitation que nous lance Paolo Conte, et puis ensuite, plus précisément... Après avoir évoqué Oniric Landscapes, paysage onirique, paysage de rêve, paysage rêvé, exposition qui se tient à la Fondation Bulukian jusqu'au samedi 16 juillet. L'exposition est ouverte tous les jours, sauf les dimanches, ainsi que les lundis et les jours fériés. Et l'ouverture est plutôt en l'après-midi en semaine, de 14h à 18h. Le samedi, c'est ouvert sur toute la journée avec une petite pause méridienne entre 10h et 14h. Et c'est important ces horaires parce que pour les prochaines dates, je redis ce que j'ai annoncé tout à l'heure, les samedis 11 juin, samedi prochain, mercredi 15 et samedi 18, les artistes seront présents. Je les avais sous les yeux tout à l'heure. Dans l'ordre, vous l'avez annoncé, effectivement, dans l'ordre, vous l'avez dit, c'est Frédéric Coggia qui sera présent de 15h à 18h le samedi 11 juin. Vanessa Fanuel les rencontre le mercredi 15 de 15h à 17h.
Et
Christian L'Hôpital le samedi 18 de 15h à 17h en entrée libre. On le répète encore fois. C'est important et peut-être encore actuellement là, avec ces idées de coûts d'inflation. Je crois que le 1 titre aujourd'hui, l'inflation, jusqu'où cela, jusqu'où s'arrêtera-t-elle? Bon, ben voilà, les prix grimpent. Et ben écoutez, là, c'est moins cher ou plus cher que gratuit. Quoi. C'est pareil. Allez-y, c'est vraiment un bel espace, très calme, très tranquille. Là, nous voyageons. Partons tout d'abord en Italie et puis ensuite... L'Italie, c'est pas très loin, non, de l'Ain.
C'est pas très loin.
Paolo Conte et nous continuerons à parler d'art encore et de différentes choses.
Via, via, vieni via di qui. Molto più ti lega questi luoghi e anche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-bum, chi-bum, bum, da-ti-do-di-do, chi-bum, chi-bum, bum, da-ti-da-ti-do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perdati per niente al mondo. Via, via, non perdati per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, dream of you. Chips, chips, chips. Dati da di du, ci bum, ci bum bum. Dati da di du, ci bum, ci bum bum. Dati da di du. Chips, chips, da ti do di duci bum ci bum bum, da ti da di duci bum ci bum bum, da ti da di du.
Paolo Conte.
Et voilà, Paolo Conte, c'est ce qui est annoncé sur cette, sur cette vidéo de l'INA, l'Institut National des Archives. Une version, Fanny, peut-être une belle version, mais je vous remercie, c'est vous qui l'avez suggéré. Une version pour nous inviter, via Conme, viens avec moi, je crois que c'est ça, c'est un impératif, ce via, non ? C'est roule, c'est...
Alors ça, je ne sais pas du tout, je la trouve juste très belle, et puis ça me fait penser aux vacances, à...
Vol avec moi, je ne sais pas quel est le sens de ce... Je pense que c'est un verbe, via, viar... Conme avec moi, donc bref, on va traduire nous. Viens avec moi, donc vous nous emmenez à quoi ? Une heure de Lyon, même pas ?
Une heure, ouais, c'est ça.
Pour l'édition 2022, la deuxième édition d'une une édition en deux temps, pour l'exposition Sentir le monde. Je suis en train de tricher, auditeur, auditrice, je lis ce qui est indiqué. Après deux reports, en 2020 et 2021, en raison de la situation sanitaire, la seconde édition de la manifestation est prévue. Les deux, samedi 2 et dimanche 3 juillet, à Revona, avec une ouverture dédiée aux professionnels le 1er juillet. Après l'art contemporain en dialogue avec le patrimoine historique, c'est la valorisation du patrimoine naturel qui sera mise à l'honneur à travers deux expositions conçues dans un ensemble et déclinées en deux temps dans des espaces différents. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'est plus question de quatre artistes comme la Fondation Bulukian, mais là, 10, me semble-t-il, non, c'est ça, ou un peu moins, un peu
c'est
plus.
C'est ça, c'est ça. On est sur 9 artistes qui seront présentés dans un village, le village de Revona, dans l'Ain, où j'habite. Hein, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans le train et que je fais les allers-retours. Un charmant village du Revermont. Où on a...
Un village, c'est vraiment 2000 âmes, c'est ça ? Ou même pas ?
Beaucoup moins, même pas. On est 900 habitants. Non mais on est à côté de Bourg-en-Bresse. Hein.
Ah, à côté, à côté 10-15 km, non ?
Ouais,
c'est quoi ?
Ça va.
20,
c'est
non ? C'est...
Ouais, 10-15 km.
Il y a Sevisa qui est tente, c'est ça ? Ou c'est quoi ? Non, quelle commune ? C'est Vrona, je ne sais plus.
Ah, c'est Nicia, ça c'est
Nicia, peut-être.
Bon, vous allez être incollable sur... sur l'Ain, mais en tout cas voilà, on est à un quart d'heure de Bourg-en-Bresse, et du coup dans ce village, en 2018, on a organisé la première édition d'une manifestation qu'on a appelée Campagne Première. Je dis on parce que j'ai beau être à l'initiative de cette manifestation, on s'est structuré en association et on travaille qu'avec des gens du village, et puis d'autres personnes qui nous rejoignent et qui nous aident et qui sont d'un grand soutien pour organiser le temps d'un week-end, vraiment ces rencontres d'art contemporain dans des lieux insolites du village, donc chez des propriétaires, dans des granges, dans des fermes, dans des parcs, voilà. C'est un très, très beau moment, les artistes sont présents, et là pour cette édition, en 2022, enfin en juillet, les artistes sont venus en repérage et vont vraiment travailler à partir du lieu, faire des propositions inédites, in situ, et il y a voilà, tout un lien aussi qui se met en place avec les propriétaires, les habitants du village, l'école, voilà, c'est un super beau projet.
On peut peut-être nommer ces artistes: Vincent Broquer, Nicolas Dauban, Marie Denis, Véronique Elena, Raphaël Peria, Morgane Porcheron, François Réau, Géraud Souliol et également
Jérémy Fischer,
qui lui se trouve en résidence à l'école de Revona, c'est-à-dire que lui...
Alors il a fait deux jours de résidence à l'école où il a rencontré chaque classe et il a pu faire un travail avec tous les petits élèves de la commune où ils ont réalisé ensemble une fresque, en fait une très grande fresque qui servira de paysage pour le spectacle de fin d'année des élèves.
Une école, c'est il y a quoi ? Il y a ce sont des doubles niveaux, c'est ça ? Ou c'est,
oui,
non,
c'est
vraiment
ça.
C'est une...
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Donc Fanny Robin, vous êtes également commissaire d'exposition, c'est ça ?
Oui,
ce sont des artistes que vous connaissez, avec lesquels vous avez collaboré auparavant, ou un peu, ou
ouais, il y a quelque chose qui... Oui, c'est des artistes, là encore, dont j'aime beaucoup le boulot,
qui s'est créé.
Avec lesquels j'ai pu ou pas collaborer. Donc oui, j'ai quand même déjà travaillé avec plusieurs des artistes, et puis d'autres avec lesquels c'est une première aventure, mais qui sera pas la dernière, ça c'est sûr. C'est sûr, parce que quand on travaille sur des projets comme celui-là, il y a vraiment toute une relation aussi de connivence qui se met en place, parce que c'est des projets très atypiques d'inviter des artistes à produire comme ça des œuvres dans une commune en lien avec des habitants. Enfin voilà, il y a un gros travail aussi sur le terrain, sur le territoire qui se fait, et c'est une belle aventure.
que pouvons-nous indiquer comme peut-être renseignements pratiques? Moi, je suis sur le communiqué de presse, campagne première week-end, donc fin de semaine du samedi 2, dimanche 3 juillet à Revona. Entrée gratuite, entrée libre sur les différents sites.
Et puis donc, c'est une exposition qui s'appelle Sentir le monde. Donc, comme vous l'avez bien fait remarquer, donc c'est vraiment autour de la notion de paysage, de végétal, de nature. Hein. Je pense qu'on avait tous besoin un moment de se reconnecter avec, tout ça. Et du coup, cette exposition a aussi un volet dans un espace institutionnel qui se trouve à Bourg-en-Bresse, l'espace H2M, qui est un espace d'art contemporain en plein centre de la ville de Bourg, où là, les mêmes artistes, en fait, exposent également, mais d'autres œuvres, et ça jusqu'à fin juillet.
La durée est bien plus longue. Hein. Là, ça a ouvert début mai, le 6 mai.
Voilà, exactement. Donc l'idée aussi des gens, des Lyonnais, parce que vous allez tous venir découvrir Campagne Première, du coup, c'est vraiment, vous pouvez faire à la fois une visite pendant le week-end Campagne Première, mais aussi en profiter pour voir l'exposition H2M.
L'accès n'est pas très difficile depuis Lyon, c'est ça, on peut certes prendre le train, comme
vous pouvez prendre le train, oui. Vous pouvez venir en voiture, c'est à une heure. Non, l'un n'est pas si excentré que ça, c'est à côté.
On n'a pas encore fait on n'a pas tout terminé votre programmation musicale. Peut-être qu'on pourrait diffuser un dernier titre, le Across 100th Street, une version de, je sais plus très bien qui c'est. Et puis ensuite, moi, en fin d'émission, je ferai quelques annonces. Pascal est en train de trépigner d'impatience. Je crois que le blues des canuts va bien commencer tout à l'heure à 15h. Donc écoutons cet extrait, ce titre. J'en connais pas davantage, mais vous allez voir, oui, c'est très bien. Et puis on terminera ensuite avec quelques annonces. Et puis peut-être un mot de la fin sur cette exposition Oniric Landscapes qui se tient à la Fondation Bulukian. Mais attention, auditeurs, auditrices, on vient de parler de l'autre exposition Sentir le monde, Campagne Première, qui se tiendra les 2 et 3 juillet à Revona.
I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street.
si nous allons au terme de ce titre, je crains que l'émission ne déborde trop et le blues des canuts est prêt à commencer. Fanny Robin, je fais quelques annonces et puis nous reparlerons peut-être encore un tout petit dernier mot sur la Fondation Bulukan ou bien sûr sur Revona aussi. Quelques petites annonces sur... c'est la fin de saison. Auditeurs, auditrices, vous l'aurez remarqué, hein, mercredi 1er juin aujourd'hui, les saisons se terminent. Ça se termine au théâtre. Il reste encore tout de même de beaux spectacles à venir. Je l'avais indiqué il y a de cela deux semaines. Oui, auditeurs, auditrices, vous l'aurez constaté, une petite pause la semaine dernière, mais c'est bien aussi parfois, c'est bien. Donc, association en quelque sorte avec le TNP ainsi que les Célestins. La Révolte des Canuts est une œuvre qui sera donnée aux Célestins, mais c'est en coproduction avec l'Opéra de Lyon et le metteur en scène françoisien est déjà intervenu et sera même encore plus présent au TNP l'année prochaine. Il sera artiste associé. Il y a aussi L'Île d'Or, une création d'Ariane Mnouchkine, le Théâtre du Soleil. Et là, c'est bien en coproduction avec Célestin, TNP et même le Théâtre de la Croix-Rousse aussi. Et puis enfin, l'Auditorium continue ses concerts. Il y a un beau concert à venir à la mi-juin, une symphonie de Gustav Mahler, la numéro 2, j'en reparlerai plus précisément plus tard. L'opéra Peer Gynt commence ce samedi 4 juin, ce sera jusqu'au samedi 13, je crois que c'est ça, plus ou moins. Lundi 13 peut-être, oui, il me semble que c'était un lundi 13. Et c'est la mise en scène de Angélique Clairant, qui est elle-même une figure aussi lyonnaise. Elle est au théâtre du Point du Jour. Et enfin, peut-être dernière chose, la dernière saison, la dernière, rétrospective. Pour ce qui est de l'Institut Lumière, commence aujourd'hui, rétrospective Ridley Scott. Et c'est donné jusqu'au 17 juillet avec tous ces films, hein, je crois qu'ils y sont tous. Hein, Les Duellistes, Blade Runner, Alien, Legend avec Tom Cruise. Je crois que certaines personnes aiment beaucoup Top Gun, il me semble. Bon, Black Rain, la chute du Faucon Noir, Les Associés, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses à hein, l'Institut Lumière. Il y a également la programmation qui est arrivée pour le cinéma l'été. Enfin voilà, maintes choses à venir encore cette fin de saison, mais quand même, tout doucement, ça se termine un petit peu. Et donc, que faire dans cette peut-être... Oui, ça peut être à la fois assassin, mais c'est aussi trépidant parce qu'il y a beaucoup de choses. Les Nuits de Fourvière commencent demain, jeudi 2 juin, avec le Tartuffe. Mais attention, première version de 1664, pas la version que l'on connaît davantage, celle de 1666. La version en trois actes, mise en scène de Ivo Van Hove, une production de la Comédie Française qui se déplace à Lyon et qui vient donc aux Nuits de Fourvière pour ouvrir. Attention aux horaires, 22h. C'est donc en deuxième partie de soirée, donnée sur trois dates, jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin. C'est donc le coup d'envoi de cette nouvelle édition des Nuits de Fourvière dont nous avions déjà parlé. Rappelez-vous, c'était en avril dernier. Donc voilà, toutes ces choses qui peuvent être trépidantes, qui peuvent être pleines d'animation, il peut être bon, Fanny Robin, directrice artistique de la Fondation Bulukan, il peut être bon de s'y rendre pour voir l'exposition Oniric Landscape qui se continue jusqu'au samedi 16 juillet. Mais pour Gaëlle Lotte, ça se termine bientôt, samedi
dans
prochain.
Dans deux semaines, je crois, voilà.
Donc il faut y aller parce que c'est agréable, c'est vivifiant et rassérénant, c'est ça.
Très beau mot.
Ça tranquillise, c'est doux, les couleurs sont agréables, pas trop d'agressivité ni de provocation, c'est pas de la provocation.
Non, après il y a toujours une seconde lecture hein, dans le travail des artistes, mais en tout cas voilà, ce sont de belles expositions qu'il faut découvrir avant la pause estivale aussi, puisque la fondation sera fermée au mois d'août et on préparera activement la rentrée de septembre avec une exposition qui s'ouvrira, une exposition de l'artiste François Réau qui s'ouvrira et qui sera en résonance avec la Biennale d'art contemporain de Lyon.
Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Si le blues des canuts peut patienter encore une seconde, je vais chercher, je vais essayer de diffuser cette ultime suggestion que vous m'aviez faite. Vous me proposiez Pomme. Les séquoias, ça peut être très bien, ça fait un écho à Vanessa Fanuel et avec ce magnifique polyptyque qui se trouve au bout de l'espace principal.
C'est pour ça que je l'ai choisi. Hein.
Ah bon, c'était fait exprès. J'en trouve différentes versions. Donc, lançons ce pomme. Auditeurs, auditrices, je vous indique les programmes encore à venir. Non, Jude, j'ai une version de The Voice Belgique. On ne va pas diffuser The Voice Belgique. Non, c'est où est-ce qu'on pourrait trouver pomme? On va trouver un beau. Il y a beaucoup de ramdam. Là, vraiment, le blues et canu, je crois, est impatient de commencer. Encore qu'il trépine d'impatience. Encore quelques instants, ce sera le Sofar Sound. Voilà, on va diffuser cette version-là. Auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. À venir, dans quelques secondes, on leur vole un peu de temps, c'est pas très beau. Le blues des Canus, aujourd'hui, mission spéciale sur J'ai manqué le thème, mais ce sera très bien. Mélomaniac à venir à 17h, Mayday à 18h, Canu Info à 19h. Ils ont fêté, ils ont fait une belle fête la semaine dernière, samedi 28. Tous les Canu Info se réunissaient sur la place Satonnet. Non, c'est pas la place Satonnet. Si, non, je crois que c'était à côté. À 20h, Idée Noire, émission de l'UCL. 21h, émission au choix. Est-ce que ce sera la bande-son de nos révoltes ou bien Aleste Leiden? Je ne sais pas. Et à 22h, Boulimix, Funky Stery. Pascal, oui, aujourd'hui, le thème de l'émission pour le blues des Canus, ce sera...
La machine à faire l'amour.
La machine à faire l'amour. Très bien, c'est Love Machine. Très, très bien. Nous, on va écouter les Sequoias. On va écouter les Sequoias dans une version de So Far Paris. Merci beaucoup,
Merci Fanny,
d'avoir assuré la programmation musicale de toute cette émission. Je l'avais annoncé à Pauline hier, je l'avais également dit à Alicia. En fin d'émission, je leur avais dit que je dirais... sans aucun doute que je dirais, nous ne nous sommes pas tout dit aujourd'hui, vous reviendrez pour nous en dire davantage sur cette fondation Bulukian et sur la prochaine exposition dont vous avez déjà annoncé le nom de l'artiste. Oui. Les dates peut-être sera septembre, octobre.
On sera à partir de septembre, à partir du 12 septembre jusqu'à fin décembre, mais avec plaisir pour revenir.
Ah ben alors formidable, écoutons Pomme et puis auditeurs, auditrices, restez à l'écoute des programmes et portez-vous bien et puis voilà, à bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci beaucoup.
Mon prochain album et ça parle des arbres et je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même. Dans l'allée des séquoias.